Alors, salutations tout le monde et bienvenue à ce cinquième balado. Donc, comme vous pouvez le constater, on est à mi-parcours, donc c'est votre moitié d'arrivage. Et on est toujours très content d'avoir des feedbacks plus que positifs à votre égard. Vous allez peut-être le remarquer, le son va peut-être être d'une meilleure qualité. On a finalement déniché un studio d'enregistrement. Alors, avant de commencer la soupe cette fois-ci, on poursuit notre long chemin du chowder. On s'en va vers un chowder de saumon de style Manhattan, une soupe qui fait sa renommée au caviste depuis ses 10 ans déjà. Donc, Manhattan style, c'est quoi? Ben, c'est une chaudrée qui est tomatée, avec laquelle on a différents légumes et saumon. Alors, bonne écoute!
Bonjour Louis-Jacques.
Salut Robert, comment ça va?
Content de te revoir et de bien t'entendre cette fois-là. On s'est écouté, hein, on a écouté notre balado, puis on s'est dit que vous méritiez mieux que notre cuisine ou notre cave à vin. Alors, on s'est, comme Louis-Jacques a mentionné, on s'est trouvé un studio, le studio 2M à Laval, qui nous reçoit ce matin, et puis vous ferez savoir si ça a une incidence positive sur votre écoute.
En espérant que le contenu au niveau de la qualité se maintienne, et là maintenant, le contenant il va être aussi positif. Alors, belle sélection de vin, encore une fois, cette fois-ci. Très content de ce qu'on a sélectionné. Donc là, on commence avec quoi aujourd'hui? On commence
en Vénétie.
En Vénétie, effectivement. On s'avance en Vénétie avec une cuvée que je suis content de retrouver, Robert. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est un vin qu'on a travaillé au verre, au caviste, il y a 5-6 ans. Qui avait disparu un peu du marché et qui était de retour. Et lorsque je l'ai vu revenir, j'ai dit, tiens, c'est le produit parfait pour ce genre de club de vin. Donc, on est sur Hacienda Agricola Calvaquina, sur la cuvée Amadeo, avec l'appellation Bianco di Custoza. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça mange en hiver? Eh bien, on est situé sur le sud-est du lac de Garde, donc qui est une région qui est très, très connue au niveau touristique. Au niveau vitivinicole, à l'export, un peu moins. Donc, on est où, le lac de Garde? On est en Vénétie. Donc, on connaît principalement la Vénétie pour à l'export sur ses appellations qui est
Prosecco.
Prosecco, bien entendu. Sinon, Valpolicella et Soave, qui font partie plus du centre-est de la région. Et le lac de Garde, par contre, produit beaucoup de vin sous deux appellations qui méritent la mention. Bardolino, qui est en rouge. Il y a quelques vins au Québec qu'on peut retrouver là-dessus. Qui les mêmes cépages qu'on trouve à Valpolicella et l'appellation Custoza qu'on trouve en blanc et en rouge et l'appellation Custoza qui a une histoire assez intéressante, Robert, que je fais des découvertes au milieu du 19e siècle, était reconnue au niveau qualitatif standard 1 et 2 par la maison des Habsbourg en Autriche. Donc les Habsbourg d'Autriche qualifiaient le vin au niveau de la transaction des niveaux qualitatifs et c'était pas juste qualitatif, c'était aussi lié au terroir. Et au même moment, il faut savoir que le domaine Calvaquina où il est situé ne faisait pas de vin en soi, mais cette terre-là était impliquée dans les guerres d'indépendance d'Italie. Et c'est à cet endroit-là que le prince Amadeo de Savoie a été blessé en 1866 et la cuvée qu'on déguste aujourd'hui fait référence à ce nom-là. Au niveau vitivinicole de ce domaine-là, c'est seulement au 20e siècle que ça fait ses apparitions. Le tout se construit tout doucement jusqu'en 1960. Le vin blanc qui est produit à ce domaine-là rentre sous la catégorie Soave, ni plus ni moins. Et la famille qui possède ce domaine-là, la famille Piana, voit le potentiel de la région et c'est à cette époque-là aussi que les premières DOC, donc appellation d'origine contrôlée italienne, se crée et décide de faire reconnaître Custoza comme une appellation en soi qui met de l'avant le cépage emblématique de la Soave qui est la
Garganeda.
Exactement, la Garganeda, avec la Fernanda, qui est ni plus ni moins le même cépage qu'on retrouve en Piémont, qui est du Cortese, le Trebbianello, qui est du Tokaj. Donc, Tokaj Friuliano, qu'on ne peut plus appeler Tokaj. On se souvient, on en a parlé dans un précédent balado. Et avec un peu de Trebbiano Toscano. L'ensemble des cépages, dans ce cas-ci, sont vinifiés séparément dans le but de laisser s'exprimer le terroir et la typicité. Et la famille dit que chacun des cépages mérite une approche différente au niveau du pressurage, au niveau de la fermentation. Et le tout est assemblé et donne un vin blanc comme on les aime, avec beaucoup de personnalité. Il y a une personnalité qui est vraiment amenée par le terroir, qui n'est pas amenée par l'élevage. Il n'y a pas de fût de chêne là-dedans. sais pas ce que tu en penses.
Ah, moi, j'adore. C'est une belle entrée en matière, évidemment. Dans la liste des vins, vous allez voir, il y a un Riesling que j'aurais été tenté de mettre en premier, mais après réflexion avec Louis-Jacques, le Custosa, effectivement, peut vraiment faire office de premier vin servi. On est sur des notes beaucoup plus de fleurs blanches. Il y a beaucoup d'épices en bouche. C'est assez surprenant. C'est bien enveloppé, mais c'est pas, comme Louis-Jacques disait, c'est pas du tout de texturé. C'est juste ample, sans avoir l'effet barrique ou l'effet élevage. Là, on est vraiment sur de l'amplitude naturelle de ces pages-là, comme il le donne.
Effectivement, et je pense qu'on va le voir dans les trois vins blancs. C'est sûr que vous les dégustez probablement rarement côte à côte, mais on est sur trois beaux vins blancs qui sont focusés sur le terroir, mais pas sur la vinification. C'est vraiment un exercice de style où ils sont bien présents, ils ont quelque chose à raconter, et on est sur des vins que, oui, on peut apprécier en apéro, mais idéalement, faut manger avec ça.
Ouais. Et ça, tu prendrais quoi avec ça?
Avec ça, je serais tenté peut-être d'aller avec des poissons pochés. Tiens, justement, la soupe là, qu'on a avec, qui est une chauderie style tomatée, mais je serais là sur un poisson poché en nage avec du beurre, un peu de crème. Pas une soupe, un bouillon trop consistant non plus.
J'aimerais un petit fenouil pour
rappeler. Oui, avec du fenouil, effectivement. Il y a une recette, si vous allez trouver ça sur les moteurs de recherche, là, mais José Di Stasio a fait par le passé un poisson à l'eau folle, ça s'appelle, là, lors de ses voyages en Italie, puis je verrais ça avec ça. Donc, je verrais ce vin-là très bien avec ça. Donc, un poisson en nage avec des légumes, justement, du fenouil, des légumes racines, ce serait super intéressant.
Deuxième vin.
Deuxième vin, c'est encore, on s'en va au Portugal, et si je peux me permettre un laïus, je pense que c'est le deuxième vin portugais qu'on a dans les arrivages, mais à chaque année, quand je fais un bilan de mon année vitivinicole découverte, je vous dirais que l'année 2021, ma découverte en 2021, c'est de redécouvrir le Portugal. Et à travers une agence, puis là, souvent on va faire du name dropping d'agence dans les balados, mais c'est, il y a pas personne qui nous paye pour ça. C'est des émotions qu'on vit en dégustant certains produits. Cette agence-là, c'est Uva. L'agence Uva, j'oublie le Sergio.
Sergio.
Et son frère, qui ont une petite boîte d'importation de vin portugais, sont portugais d'origine. Et nous arrivent avec des petits domaines très précis, très traditionnels, qui vivent pas la tendance des vins portugais très extraits, boisés. Et ce vin-là, les vieilles vignes de Rabigoto de Dona Berta dans le Douro, a été un des grands coups de cœur de la dernière année. Là, c'est le deuxième millésime qu'on travaille. Et si vous mettez nez là-dedans, c'est tout en élégance. Il y a un côté salin, il y a un côté iodé. Ça aurait été difficile pour moi de les placer. Peut-être on aurait pu le mettre avant l'autre, mais il y a une élégance qui est encore plus intense que dans le premier vin. Et on est sur le Rabigoto. Donc, quand on pense Douro, rapidement, on pense Porto, bien entendu, donc les fameux vins fortifiés, et on pense vin rouge. C'est rare qu'on va associer le Douro au vin blanc, mais le vin blanc est présent depuis quand même très... Les cépages blancs sont présents depuis très, très longtemps dans la vallée du Douro, et le cépage Rabigoto est le cépage par excellence qui est reconnu qualitativement, puis ça depuis des siècles. Cependant, il faut attendre l'arrivée du 21e siècle, des nouvelles techniques de vinification, pour aller faire un vin blanc de table très élégant, très racé. Je sais pas ce que tu en penses, Robert. Ben,
moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas des vins qui naturellement nous attirent, les blancs du Portugal, du Douro. En fait, si on va dans le Nord, c'est clairement plus. Mais ce qui est intéressant, puis comme tu le mentionnais, les gens réalisent pas comment, à la fin du 20e siècle, les techniques de vinification de blanc se sont bonifiées. Les gens ont accès à des technologies qu'ils n'avaient pas auparavant, la température contrôlée dans les cuves de stainless, et ça, le Rabigoto, pour en avoir déjà dégusté du très mauvais, il partait avec une balle, une strike against, là, mais c'est vraiment très, très bon. C'est d'une complexité aromatique puis on manque de référent par rapport à ce vin-là. Je sais pas si je cherche par rapport à quoi je pourrais le comparer, et c'est très complexe.
Et c'est la beauté, selon moi, des vins portugais. C'est de trouver des référents. C'est là qui est intéressant. C'est au Portugal, si on écoute notre terroir, on écoute notre vigne, puis on fait juste vinifier dans le respect le plus possible, on se rend compte qu'il y a une identité avec ces cépages-là et beaucoup de vieilles vignes. On parle ici, justement, il y a une mention vieille vigne là-dessus. En ce qui concerne le projet, il y a environ 30 ans, le producteur actuel, c'est Hernani Verdelo. Verdelo, qui porte bien son nom, qui est un cépage emblématique dans le Vino Verde. C'est un ingénieur qui lance le projet de reconversion et d'amélioration du patrimoine vitivinicole de sa famille. Ils ont 2 hectares de vignes centenaires pré-phylloxériques, donc des vignes qui n'ont pas connu l'arrivée du phylloxéra. Une bonne partie du Douro, certains endroits n'ont pas eu ça parce qu'ils étaient isolés, des sols aussi un peu plus complexes, beaucoup de schiste, beaucoup de sable, dont le fameux puceron ne prend pas. Et ils décident de partir de ces 2 hectares de vignes-là pré-phylloxériques, dont certaines variétés de raisins ne sont même pas au cadastre des registres des vins portugais, et font une sélection massale. Je pense qu'on a déjà abordé le sujet de la sélection massale par le passé, mais ils vont aller chercher les plus belles vignes pré-phylloxériques et faire des boutures de ça dans le but de replanter leur domaine. Donc aujourd'hui, on a 15 hectares de vignes et la cuvée vieille vigne Rabigato, c'est 100% Rabigato des vieilles vignes. Certaines ont 35 ans, certaines proviennent de aussi la parcelle pré-phylloxérique. Tout est vinifié en cuve d'acier inoxydable et c'est une cuvée qu'ils font depuis 2001 et qui est toujours très bien acclamée. 13,5% d'alcool, je le mentionne, pour moi, ce n'est pas un critère qualitatif, mais quand on tombe dans des endroits chauds comme le Douro peut l'être, c'est quelque chose qui peut être super intéressant à regarder. On n'est pas obligé d'aller chercher des maturités phénoliques trop élevées pour faire des très grands vins. Ça, c'est un vin qui va aussi appeler aux fruits de mer, des huîtres. Avec ça serait super intéressant. Il y a un côté salin qui je ne sais pas pourquoi on retrouve ça dans ce vin-là, parce qu'on est quand même loin de la mer. Mais au nez, j'ai un côté salin iodé qui revient.
Ouais. Moi, j'aurais essayé de bonifier peut-être avec une pâte avec un corps gras là, pour lui donner un petit peu plus d'expansion en bouche, parce que effectivement c'est très salin, mais c'est aussi très concis comme bouche, c'est très droit, et je sais pas ce que ça pourrait faire, mais essayez les deux.
Une carbonara peut-être? Carbonara avec ça pourrait peut-être être intéressant. Ouais. Mais bref, super content de vous présenter ce produit-là qu'on a sur la carte des vins, et souvent on a ça sur la carte des vins des cavistes en petite quantité, et je vais souvent amener les clients qui aiment Chablis vers ça. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec ce vin-là. On s'en va, Robert, avec le Riesling.
Oui, de M. Fink & Cotien. Je crois que c'est le deuxième produit de cette maison qu'on met de l'avant. Dans le cas qui nous concerne ici, donc c'est un Riesling Burgenmeer 2019. L'intérêt de ce Riesling d'Autriche, ben, c'est entre autres son âge. C'est 2019, on boit un Riesling qui a déjà une certaine évolution. Aussi, on boit un Riesling qui est assez typé des Rieslings autrichiens, même s'il y a peu de Riesling en Autriche. On pourrait croire le contraire, c'est la forme de la bouteille, je pense, qui va mélanger tout le monde. Toutes ces bouteilles-là, alsaciennes, qui sont les bouteilles, en fait, qui viennent de l'héritage culturel germanique. Donc, toutes ces bouteilles-là font penser que c'est des Riesling à chaque fois qu'on ouvre une bouteille de cette grandeur-là. Mais en Autriche, il y a seulement 7% de Riesling, évidemment 50% de blancs qui sont le Grüner Veltliner. Et un autre Riesling, en fait, qui est le Belge Riesling, qui est majoritaire, beaucoup plus que le Riesling, à 10%, et qui, lui, ne vous trompez pas, sert à faire du secte. Le secte, qui est une boisson
un mousseux
pétillante, qu'on pourrait appeler insecte, donc que j'ai bu une fois aussi dans ma vie seulement en Allemagne. C'est pas toujours bien maîtrisé. C'est une méthode en fait et qui s'exporte peu pour faire des vins pétillants dans les régions germaniques. Donc ce Riesling, très
très beau nez, hein?
Très très beau nez. C'est vraiment comme Jacques disait, un petit 13% d'alcool. On a vraiment une couleur très classique là, de citron pâle, des notes un peu jaune, verdâtre, qui est très classique. Le nez, c'est vraiment agrumé, c'est très très léger au nez, c'est très aérien. La bouche, ouais, pomme verte, pomelo, zeste agrume. C'est à ne pas boire trop froid, parce que l'acidité va être littéralement électrifiante si vous le buvez trop froid. Là, ça fait comme 20 minutes qu'il est dans le verre. beaucoup plus d'amplitude, beaucoup plus de texture, beaucoup plus de matière. C'est vraiment très, très, très intéressant. Les notes herbacées aussi qui ressortent avec l'élevage, l'âge, pardon. Et avec ça, moi, je serais très simplement de deux choses l'une. Vous le mettez sur une table où il y a une nappe blanche avec pétanque et puis peut-être un petit gratin de panais au cheddar là, pour aller chercher l'amertume du panais puis le gras du cheddar. Ou vous faites ça un lundi soir avec un grilled cheese au vieux cheddar avec pommes caramélisées, puis vous êtes tout aussi heureux.
Oui, ou vraiment... même les escalopes de poulet cordon bleu, là, un clin d'œil au schnitzel, non, mais ça serait super bon avec ça, c'est mais vrai, effectivement, ou même, comme on a dit, grilled cheese, croque-monsieur avec ça, ça serait bon. Là. Mais c'est un vin que, ça c'est pour moi, c'est dans la... J'ai beaucoup d'expérience avec les Riesling en général, c'est des vins qui ont beaucoup de personnalité, qui sont très racés, et qui... aussi sont agréables à boire par tout seul. J'ai souvent des très, très beaux souvenirs d'être avec des copains du milieu de l'industrie. On s'en va dans un bar, puis 10 heures le soir, on se prend une bouteille de vin. On va souvent se prendre une bouteille de Riesling qui a de la matière, qui a de la charge. Là, aujourd'hui, on vous le présente dans une version sec. Ce sera pour un balado Director Scott, mais on pourrait partir longtemps sur la notion de sucre résiduel dans le vin. Il faut savoir que le Riesling est très populaire au caviste. On en a tout le temps au verre, mais la ligne directrice, parce que la demande veut ça, c'est que les gens veulent des Riesling très secs. Il y a des très beaux Riesling avec un beau sucre résiduel à 8% d'alcool qui se boivent aussi très, très bien. Mais c'est des Riesling, c'est des vins qui te partent seul, tu prends une gorgée. C'est un vin de soif, mais avec beaucoup de marge, avec beaucoup de texture. Versus ce qu'on n'a pas en rouge.
On faisait la semaine dernière un apéro à cerise, justement, les apéros du mercredi, puis c'était le Riesling qui était mis en valeur, puis on s'est amusé avec les accords à jouer sur les textures, puis justement la sucrosité du Riesling pour voir comment il peut changer de gueule. Et ça, si jamais vous voulez vous commettre sur le Riesling sans trop dépenser ou trop passer de temps, ben, l'apéro Riesling là, qui va venir à l'hiver, c'est une bonne façon d'apprendre à mieux cerner le cépage parce que c'est un cépage qu'on a cloué au pilori depuis des années parce qu'il a souvent été mal livré. Là. Les gens d'un certain âge ont une impression du Riesling qui est c'est sucré, c'est vieux.
Et il rentre à cause de la Blue Nun, du Black Tower qui n'est pas du Riesling à 100%, qui est un assemblage, il prend beaucoup plus de Welsh Riesling. Et tout de suite, on le met dans cette catégorie-là. Et à cela s'ajoutent deux scandales, l'antigel qui a eu lieu en Autriche et aussi en Allemagne. Est arrivé. Non, en tout cas, l'Autriche a mis dans... Longue histoire qui fait en sorte que c'est un cépage qui a beaucoup de plomb dans l'aile, mais qui est vachement apprécié. Et souvent, comme je dis au restaurant, les gens, « Hey, j'ai un Riesling au verre, il faut que ce soit sec. » Effectivement, je comprends ça, mais... Amusez-vous à essayer certains Riesling qui ont un 10, 12, 20 grammes de sucre résiduel, qui est naturel, qui peut être aussi très, très intéressant.
Quatrième vin, Louis-Jacques, tu reviens en Italie?
On revient en Italie. Montepulciano d'Abruzzo, Giuliana Vicini. Donc, excusez-moi, mon italien est pourri. Donc, on s'en va en Abruzzo. Donc, les Abruzzo, région que j'affectionne particulièrement. Au niveau rapport, qualité, prix, plaisir. Juste pour faire un parallèle, on en a parlé un peu le dernier balado avec Brunello di Montalcino. On a parlé de Vino Nobile di Montepulciano. Donc, il faut juste démêler ça rapidement. Là, on est sur du 100% Montepulciano, qui est un cépage qui vient de la région des Abruzzes. Et il ne faut pas confondre avec Montepulciano, qui est aussi une ville en Toscane, où on fait du vin rouge avec du Sangiovese. Si vous voulez en apprendre davantage, je viendrai dans nos ateliers dégustation. On passe ça plus en détail. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, 100% Montepulciano des Abruzzes, donc cette magnifique région qui est sur la mer Adriatique, qui est pris à côté de les marches également. Et c'est un cépage que j'adore parce que c'est un cépage qui est caméléon en ce soi qu'on peut faire un vin porté très, très sur le fruit. Pas du tout boisé, sur une trame tannique très élégante, très subtile. Et plus on monte en niveau de la vieille vigne, plus on s'en va vers le nord du pays, sur les vignes en pergola, on peut s'enligner sur des vins qui vont avoir la structure, de la matière, des beaux vins de garde, des beaux vins de repas gastronomie. Et le tout sans jamais se ruiner. Toujours avoir avec des rapports qualité, prix plaisir intéressants. Là, on est sur vraiment le petit Montepulciano d'Abruzzo, vraiment classique, porté sur le fruit. Il n'y a pas de bois là-dedans. Ça se boit tout seul et on en a parlé le dernier balado, mais on a cette belle amertume italienne-là en bouche qui appelle à une autre gorgée. Tu te rends compte que tu as fini la bouteille et tu n'as même pas commencé le repas. Mais c'est
un peu un vin qui pourrait, si jamais vous n'avez pas de Gamay ou de Pinot, ça fait office de vin d'apéro qu'on va ouvrir en cuisinant. En
et les gens, des fois, qui aiment moins le côté très fruité dans ta face, des macérations carbonées qu'on va retrouver avec les Gamay d'entrée de gamme. Là, vraiment, on n'a pas ce côté-là. Et comme Robert dit, avec la charcuterie, c'est parfait. Et lorsqu'on a dégusté ça, ça nous rappelle un vin qui, malheureusement, n'existe plus sur le répertoire de la SAQ, mais qui était le Montepulciano d'Abruzzo Illuminati, le Riparoso,
qui avait plus de fruits, par
contre. Un petit peu plus de fruits, effectivement. Donc, au niveau de l'histoire, c'est un domaine, le nom du domaine est en l'honneur de Giuliana. Giuliana, qui est née en 1925, qui s'est occupée du vignoble dans l'ombre des hommes de la famille. Et à cette époque-là, il faut comprendre que la femme, lorsqu'elle naissait, son devoir, c'était de se trouver un bon mari, donc de rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir rayonner, mais elle ne pouvait pas rayonner de par elle-même. C'est même son frère, qui est 5 ans plus jeune qu'elle, qui a hérité du domaine à la mort du père à 16 ans, quand c'est Giuliana qui s'occupait du domaine. À 95 ans, Giuliana a survécu à tous les hommes de la famille. Et c'est elle qui a pu décider entre qui irait entre les mains de qui irait ce domaine-là. Et elle a décidé de donner ça entre les mains de sa nièce, qui à deux conditions. Que le nom porte le nom de famille Vicini. Donc Vicini, c'est pas Giuliana. Vicini, c'est qui? C'est sa grand-mère. Et c'était son nom de jeune fille à sa grand-mère. Donc c'était obligatoire, il fallait que ce soit le nom. Et que ça porte le nom d'elle-même, donc Giuliana. Et que ce projet-là, elle le porte en elle, sa nièce, et que ça serve d'exemple à l'émancipation des femmes en affaires.
Wow, donc, Walt Disney va faire un film, c'est sûr.
et il raconte même que lorsque le père de Giuliana a appris que ça était pour avoir un enfant, il est allé acheter un chapeau pour célébrer ça en l'honneur de son petit garçon. Puis quand l'enfant est né et qu'il a vu que c'était une femme, il a retourné le chapeau chez le chapelier. En tout cas, donc c'est un beau clin d'œil sur le savoir-faire de la femme d'affaires en soi, qui à cette époque-là, en 1925, était totalement différent. C'est juste un petit clin d'œil, mais rapport qualité-prix, c'est superbe. Et là, on s'entend, là, tous les vins aujourd'hui, il n'y a pas de vin de garde. C'est vraiment intéressant. Là, on est surtout des vins qui vont s'apprécier dans les 3-4 prochaines années. Là, donc, c'est à boire. Il n'y a pas rien à coucher. On est tout dans des trucs qui sont assez ouverts. On s'en va maintenant, Robert, en Roussillon, en Languedoc.
En Languedoc, avec Saint-Chinian. Saint-Chinian, qui est une appellation qui, moi, me parle beaucoup parce que, jadis, naguère, lors de mes débuts en restauration, c'est des vins que j'aimais beaucoup, beaucoup mettre au verre. C'est des vins qui avaient un rapport qualité-fruit exceptionnel et qui donnaient toujours du plaisir aux gens à qui on servait ça, qui connaissaient peu les appellations comme Saint-Chinian. Là, on a vraiment les orties du Mazet, la Villa Voltaire, qui est en bio-conversion, biodynamie, on n'est pas sûr.
C'est bio-certifié.
C'est bio-certifié, mais je pense qu'ils sont en conversion aussi. Si vous êtes un amateur de rouge aux fruits éclatants, là, ça va vous parler. C'est vraiment des rouges avec des cerises, le fruit qui croque. Les orties, c'est une plante qui pousse dans ce coin-là. Et le Mazet, c'est la petite hutte dans laquelle les vignerons vont se reposer pour le lunch lorsqu'ils travaillent dans les champs, où il fait très chaud. Donc, c'est un clin d'œil à ça. On est à 200 mètres d'altitude, Saint-Chinian. Donc, on est, comme Jean le disait, dans le Languedoc, à l'intérieur des terres, très près des massifs, et puis avec une influence méditerranéenne quand même qui va rafraîchir le vignoble pour justement garder la vigne très, très saine. Dans ce cas-ci, vinif avec des levures indigènes, élevage en amphore de 160 litres, quand même des grosses amphores, 160 litres, je ne me trompe pas.
Et le Saint-Chinian, le cépage emblématique du Saint-Chinian, c'est le
Carignan.
Exactement.
Tu l'as googlé en même temps?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Le Carignan. Et le Carignan, il nous vient de où? C'est un petit segue avec les vins d'Espagne. Il nous vient d'Espagne, de la région de Carignan. Et il aurait été importé comme plusieurs cépages avec soit les gens de Compostelle qui faisaient la route à ce moment-là en dehors de l'Espagne. Ils ont ramené le Grenache, ils ont ramené le Carignan, ils ont ramené d'autres choses. Au moins ces deux-là. Par contre, ce qui est plus probable encore, c'est que les Espagnols, à ce moment-là, étaient quand même une puissance dominante sur la Méditerranée et donc ont disséminé leurs cépages, que ce soit en Sicile, que ce soit en France, ils étaient un peu partout. Donc, bien vigne de Carignan pour ce rouge, avec supporté par la Grenache et du Mourvèdre, je crois. C'est vraiment le Carignan, c'est un cépage qui a été oublié de par sa réputation au début du 20e siècle. C'est un cépage qu'on utilisait pour, comme les gens le disent souvent, faire pisser la vigne, avec des rendements très, très, très élevés qui donnaient des jus très minces, très peu aromatiques. C'est un cépage d'ailleurs que les Français ont exporté en Algérie, parce que l'Algérie, à ce moment-là, servait à faire beaucoup de vin de volume. Mais à la fin des années 1990, la macération carbonique a été mise à profit pour donner au Carignan un petit peu plus d'expansion au niveau du fruit, un petit peu plus de croquant. Et donc, on a réussi à faire des Carignans qui étaient un peu plus aromatiques et beaucoup plus intéressants à boire en jeunesse. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment ce qu'on a. Moi, j'ai vraiment la cerise, la framboise, tout l'exemple classique du Carignan est là, supporté par une grenache qui donne une texture, une colonne vertébrale. Donc, c'est encore là beaucoup de plaisir. Celui-là, je le laisserai respirer en carafe un petit peu à l'ouverture. C'est vraiment...
Le Carignan a toujours un côté giboyeux, du côté animal, cuir, viande fraîche. Donc, il mérite justement de respirer. Ça fait partie de ses attributs variétales. Là. Donc, on n'a pas même le choix d'y penser. Mais quand c'est bien vinifié, ça donne des choses super intéressantes. Ouais. Là. Puis ça, c'est le vin à rôti de palette.
Vin à rôti de palette. Même, puis là, ça dépend si tu as une soirée, c'est peut-être une petite pizza aussi. Là,
ouais,
très simple.
Exact.
Mais effectivement, un rôti, une viande qui va avoir sorti ses sucres de cuisson, ça va très, très bien faire l'affaire. Donc ça, c'était le cinquième. Et pour le sixième, on reste encore sur le continent. Donc, on a fait ça européen.
C'est à l'européenne.
À l'européenne. Avec Bernavi, le Cavernet de Bernavi. Bernavi, c'est en Tarragone, en Espagne. Si vous cherchez aussi la Tarragona, en fait, toute la Catalogne, en fait, est faite de quatre provinces. On connaît plus Barcelone, qui est une région administrative, mais la Catalogne, donc, un peu indépendante, est faite de quatre provinces, et la Tarragone en est une. Et dans chacune de ces provinces-là, ben, vous avez des comarques, mettons, comme le Priorat, c'est pas une région d'Espagne, c'est un comarque, c'est une région administrative. Après ça, vous avez
Monsanto,
Peralta, tout ça font partie de cette appellation-là. Donc, on a quoi ici? On a du Cabernet Franc et du Cabernet Sauvignon.
Donc, d'où le Cabernet, le V
qui est en catalan, oui, c'est ça, Cabernet. Donc, on a un rouge un petit peu plus de puissance, un petit peu plus alcooleux, qui tire à combien, celui-là?
14%.
Ouais, ce 2018, ce rouge-là, moi, je l'attendrai un petit peu. Tu vois, tantôt, on disait qu'il n'y avait pas de garde.
On peut le faire vieillir.
Ouais, je le garderai une petite année ou deux, là, pour qu'on dirait qu'il n'est pas encore tout à fait assumé, au niveau de la texture. 24 mois de bâti. Ces gens-là travaillent dans le domaine de Bernavi. On travaille uniquement le bâti, donc c'est des barriques de 3000 litres.
Des grosses barriques.
Grosses barriques de 3000 litres qui vont plus accompagner le vin dans l'élevage que le modifier. On veut que le vin continue de garder sa personnalité. On ne change pas le vin une fois qu'il est fait. On ne sert que du véhicule pour l'accompagner dans son vieillissement. Donc, un rouge grenat, des fruits intenses, des notes épicées, c'est très classique des cépages Cabernet Sauvignon ou Cabernet Franc. Les tanins sont très doux, très soyeux, ce qui me fait dire que je le garderai pas plus qu'un an ou deux, parce que je crois pas qu'il soit capable de faire plus en longueur que ça. Et c'est un bel exemple de ce que Terra Alta nous donne, c'est-à-dire des cépages classiques bordelais, mais vinifiés à l'espagnol et dans une région qui est quand même assez fraîche. Hein. On a la Méditerranée qui frappe les côtes, et on est en élévation, on est à 350 mètres, donc si vous aviez une vue en coupe à faire, vous allez voir les montagnes qui descendent vers la Méditerranée, donc les cépages sont à flanc de montagne, donc on a vraiment des belles influences, des beaux vents qui gardent les vignes saines et qui permettent d'arriver à une maturité phénolique sans qu'elle soit trop chargée d'alcool au niveau du fruit. Donc c'est vraiment très très intéressant, et avec ça, moi, j'oserais, quand j'ai goûté ce matin, je me disais carré de porc avec une crème d'estragon, mm-hmm. carotte rôtie. Je sais pas, l'estragon me parle là-dedans. Il y a une garrigue.
Ben, c'est sûr que les cépages bordelais dans la famille des Cabernets, que ce soit Sauvignon, Cabernet Franc, dans leurs critères variétaux classiques, il y a toujours un côté végétal qui va être plus ou moins présent selon où on se situe. Donc, si on part du Cabernet Franc de la Loire, on en a parlé dans le précédent balado avec, je pense qu'il y avait un Saumur, si je me souviens bien, qui va avoir un côté plus poivron vert qui va ressortir, tendre vers le cassis. Et le cassis, qui est un fruit noir, mais un fruit qui est assez végétal de par lui-même. Donc, on a, c'est sûr, ce côté-là. Donc, comme Robert dit, d'intégrer dans notre sauce, que ce soit des légumes feuilles, ben des, voyons, des plantes aromatiques comme l'estragon, le romarin, le thym, qui ont ce côté verdoyant-là, ben là, on vient vraiment bien travailler en symbiose avec ces caractères-là. Et soit dit en passant, parce qu'on va servir une de ces cuvées-là sur un atelier qui est sur qui est focus sur la biodynamie, le côté biologique et les sulfites. Mm-hmm. C'est son, selon moi, son critère positif dernier, c'est un vin nature. Donc, ouais. Il se rentre dans la catégorie des vins nature. C'est pas pour cette raison-là qu'on l'a acheté.
Mais vous pourriez le servir à votre...
Mais votre beau-frère qui aime le vin nature, le Pet Nat aussi. Donc, ça rentre dans cette catégorie-là. Les Orchis du Maget aussi, c'est considéré comme étant un vin nature. Mais donc, c'est juste, souvent, pour moi, c'est l'argument dernier. Il travaille tellement bien, la qualité du raisin, elle est telle que ils n'ont pas besoin de se permettre de mettre trop de sulfite, juste un poil pour que le vin traverse l'océan de façon exemplaire. Et honnêtement, c'est un beau, super beau produit, ça. Moi,
je profite du micro que je reprends pour quelques petites annonces. Dans quelques semaines, ce sera Montréal à table. Je sais que vous êtes tous des aficionados des cavistes et du vin. Juste à vous dire, entre le 2 et le 15 novembre, je pense, ou le 13, quelque chose comme ça, on va rouler le menu Montréal à table et il y aura un accord mets vins que Louis-Jacques va nous préparer. Beaucoup, beaucoup de gens. Fait que si vous voulez faire l'expérience Montréal à table, que ce soit à Caviste ou à Cerise, prenez-vous d'avance pour les réservations. Ça, c'est la première annonce. Deuxième annonce, le 6 décembre, comme vous faites partie de nos chouchous, puis si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, c'est vraiment le cas. Si jamais ça intéresse, on va annoncer bientôt un événement particulier pour le 10e anniversaire des Cavistes. Une soirée spéciale le 6 décembre auquel vous serez conviés.
Mettez ça à l'agenda
parce que qu'on n'a que 100 places qu'on ouvrira pour cette soirée-là avec des millésimes qui sont dans deux des cas plus vieux que Louis-Jacques, ce qui n'est pas peu dire. Donc, on va beaucoup s'amuser pour celle-là. Et troisième, c'est qu'on considère peut-être ouvrir des places pour le club de vin à l'hiver 23. Et donc, on vous dit tout de suite que vous serez avisé en premier. Donc, si vous avez des amis à qui vous voulez faire plaisir.
Vous êtes nos ambassadeurs.
Ce sera le moment d'échanger des faveurs assez payantes pour vous. Sur ce, Louis-Jacques, je vais te laisser revenir de ton
décalage horaire. Ouais, j'espère que vous avez eu du plaisir. Là, on revient tout juste d'Afrique du Sud. Et là, il était censé avoir dans cet arrivage-là une Syrah d'Afrique du Sud qui est bien attendu, qui est pris aux entrepôts, mais qui va s'en venir sur le prochain arrivage. Ça, c'est sûr et certain. Et merci beaucoup de votre écoute et on se revoit pour un sixième. Je pense qu'il reste deux arrivages avant Noël.
Un seul? En décembre.
C'est tout?
Oui.
OK. Bon, un arrivage avant Noël. Donc, voilà. Et pour l'arrivage avant Noël aussi, on va venir au courant, mais on va avoir un salon des fêtes aussi.
Ah oui, c'est vrai. Le 4 décembre.
Bon, 4 décembre.
Salon des vins,
auquel vous allez pouvoir venir déguster, acheter du vin en bouteille si vous avez encore de la place dans votre site.
Merci.